Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Pour cette série Partir mais à quel prix, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes ayant quitté leur pays pour poursuivre leurs études. Elles partagent avec nous la préparation du départ, le choc de l'arrivée sur le plan social, administratif et culturel, l'adaptation à un nouvel environnement, les difficultés rencontrées, ainsi que les conseils et recommandations si c'était à refaire.
L'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, du moins ce qu'il en reste, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes, parce que c'est tout ce qu'il leur reste, ce petit bout d'identité. Ce texte est une interview de Leonora Miano, que nous trouvons pertinent pour les récits qui vont suivre. Bonne écoute.
J'ai migré en Chine en 2018, donc j'avais, je pense, 23, 24 ans. J'avais terminé mon master, mes cours, donc j'avais terminé les cours, je pense, 6-7 mois avant. Non, j'avais terminé un peu plus d'un an avant les cours, et j'avais fait la soutenance de mon master 6 mois avant mon départ. Et après ça, sinon pendant, j'avais créé une entreprise avec mon mentor. Donc, on travaillait en tant que partenaire distributeur chez Orange. À côté, j'avais également stagiaire consultant dans un cabinet, plus ou moins ce que je faisais avant de me lancer pour le départ pour la Chine. Ah, c'est vrai que la Chine est très grande. J'ai oublié déjà combien de districts ou combien de provinces il y a. Mais je suis à Wuhan. Donc la fameuse ville de Wuhan. La ville est devenue très célèbre à cause du Covid. Donc c'est marrant en plus parce que avant ça, on a eu les Jeux Olympiques militaires et donc on s'est dit écoute, au moins la ville va être populaire parce que tous les militaires du monde entier se sont rassemblés. Sauf que Wuhan a été connu plus pour Covid que pour les Jeux Olympiques militaires. Alors, la raison de ma venue en Chine, ça a été, et donc, il faut que je précise que je venais de la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis allé en Chine dans le cadre de mes études et j'avais postulé pour un programme de doctorat en transformation digitale. C'était une bourse du gouvernement chinois, bien sûr. Et donc, voilà. Et ce qui m'a motivé, donc, je précise que j'étais en situation de travail à Abidjan. Et ce qui m'a motivé à postuler à ce programme-là, j'ai été appelé un jour par la secrétaire d'un DG d'une entreprise d'assurance qui existe en Côte d'Ivoire depuis des années. Donc, on avait, dans le cadre de nos activités, on faisait également des team building pour les entreprises. Et donc, ce DG-là me fait appeler par son assistante, donc qui fixe le rendez-vous. Et j'ai eu le nez creux en me renseignant plus ou moins sur lui la veille du rendez-vous. 19-20 heures, je pense. Et je me rends compte que le monsieur, il a mon âge en année d'expérience. Soit le jour du rendez-vous arrive, toi, tu prends quelqu'un de sa trempe pour t'accompagner. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai informé mon patron de l'époque. Et donc, on est allé ensemble. Et bien sûr, ils se sont présentés, ils se sont jaugés mutuellement. Donc, à l'issue de ça, ils se sont rendus compte qu'ils étaient du même niveau professionnel. Et la question à laquelle je m'attendais a été posée, c'était, mais en fait, vous semblez occupé. Et donc, il pose la question à mon patron. Il dit, vous semblez occupé, mais qui fait le travail? Et donc, mon patron m'introduit à ce moment-là et tout, machin. Et la réaction du monsieur a été à ce petit-là. Et donc, mon patron qui prend le relais en disant, ah oui, en fait, bah, voici les projets sur lesquels il a travaillé. Voici, ainsi de suite. Donc, il a fait une présentation de façon générale des projets sur lesquels j'avais déjà travaillé. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, tu es jeune, tu veux terminer en tant que consultant dans ta carrière. À défaut d'avoir beaucoup d'années d'expérience, il te faut avoir au moins un gros diplôme pour compenser. Et donc, je précise qu'au départ, c'était l'histoire même qui m'a fait réaliser qu'il fallait postuler pour la bourse. J'avais entendu cette histoire de bourse-là depuis, mais je négligeais. Et donc, la personne qui devait m'aider, me relancer, c'est comment, ça va, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Donc, il y a eu, je pense, un mois où c'était des relances auxquelles je répondais pas. Et après cette situation-là, il se trouvait que c'est moi qui étais plus intéressé. Donc, je lui ai écrit. Écoute, voici, ça m'intéresse et tout. Donc, voilà. On l'invite à la maison. Il est passé à la maison, rencontrer les parents, proposer, expliquer de fond en comble. Et voilà. Donc, c'est à la suite de ça que les démarches ont réellement été entamées. Et pour la petite histoire, c'est ce monsieur-là qui m'a motivé à aller à postuler pour le doctorat. Alors, comment le voyage a été préparé? Il y a deux choses à savoir. Donc, celui qui m'aidait dans le cadre des démarches pour la bourse, on a beaucoup discuté et il avait préparé un guide donc du nouvel étudiant en Chine et tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant d'obtenir la bourse, qu'est-ce qu'il faut faire après l'avoir obtenue. Franchement, il avait préparé le cadre. Donc il y avait un guide très clair de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait avoir comme document. L'école militaire. Donc, on a un réseau très large. Du coup, je le précise là parce que vous comprendrez plus ou moins dans la suite de mes propos pourquoi est-ce que je le précise. Et donc, la deuxième personne à qui j'ai interagi, c'était un de mes cadets de l'école militaire qui était en Chine, à Wuhan. Et donc, avec qui j'ai discuté également. Après, enfin, je dirais que moi-même, je suis un peu prévoyant ou, enfin, j'aime pas me trouver dans des situations de manque. Donc, j'ai préparé des documents, enfin, tout ce qu'il fallait, extrait de naissance, ce genre de choses en tout cas, histoire de pouvoir faire face à d'éventuelles demandes. Donc, j'avais déjà plus ou moins des documents qui étaient préparés, des copies de ci, des copies de ça. Enfin, en gros, j'étais préparé en vrai, avec toutes les informations que j'ai pu avoir. OK, donc, aux questions de savoir comment est-ce que le voyage s'est préparé et qui m'a accueilli, de base, nous étions trois. Et fait le voyage ensemble parce que bon, heureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai eu ma date, sauf que les deux autres n'ont pas réagi dans le temps. Donc, pour X raisons, on avait des dates qui étaient décalées. Et je pense qu'ils devaient partir 2 jours ou un jour après, moi, je sais plus. Mais ils étaient deux à y aller. Et moi, j'étais seul. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Tout compte fait, on va tous y arriver. Donc, j'ai pris mon billet et j'avais déjà toutes les informations, comme je disais, donc après avoir discuté avec tout le monde et tout. Donc j'étais préparé et finalement j'ai pris mon billet, j'arrive. Et donc là, effectivement, tu parlais de comité d'accueil, j'ai eu droit à un gros comité d'accueil parce que je l'avais précisé plus tôt, à l'école militaire, bon, rien que le fait de savoir que un jeune ou un cadet a fait l'école militaire à telle période, même si les périodes sont différentes. Ça ouvre droit, ça donne droit à un très gros réseau. Et du coup, l'attaché de défense de la Côte d'Ivoire en Chine dans le temps était un ancien de l'école militaire. Et donc, je précise pas cette lucarne-là. Je vais pas cette lucarne-là lui dire merci ou ce qu'il a fait pour moi parce que, à cette période, le président de la République était en visite en Chine. Et donc, malgré ça, après le dîner qu'ils ont eu avec le président et tout, il est passé me récupérer à l'aéroport. Et je précise que j'ai pas attendu plus de 30, 40 minutes. Donc, ça a été vraiment, on va dire tout était aligné, toutes les étoiles étaient alignées. Et il m'a récupéré à l'aéroport. Bon, j'étais en véhicule diplomatique quand même. Il m'a récupéré à l'aéroport, il m'a installé chez lui, et j'ai dit comme, toutes les étoiles étaient alignées parce que chez lui, il avait un de ses neveux qui également était à Oran, dans l'université dans laquelle j'allais. Franchement, j'ai pas souffert. Donc, tu arrives, j'arrive à Beijing, je dors chez l'attaché de défense. Le lendemain, il me présente à son neveu. Et donc, son neveu prend le relais. Donc, il m'a accompagné à la gare de train, on a pris le ticket. J'ai pris mon premier McDo. Et bon, j'arrive à la gare de train de Wuhan. Il faut trouver quelqu'un. L'université est fermée. Il faut trouver quelqu'un chez qui dormir. et le lendemain aller à l'université. Et donc, une fois de plus, mon cadet de l'école militaire là, qui était dans le temps en vacances à Abidjan, et que j'ai pu appeler en temps, il y a le neveu de l'attaché de défense qui avait également prévenu Ouran, certaines personnes de Ouran, leur disant qu'il y a un nouvel étudiant ivoirien qui arrive et tout, machin. Donc voilà. Du coup, j'arrive. Il y avait quelqu'un qui m'attendait à la gare de train. Et bah, on est sorti de la gare, il m'a ramené chez lui. Donc, c'était pour l'histoire, c'était la première fois où je mangeais avec des baguettes. Donc, je suis resté chez lui également une nuit. Le lendemain matin, autour de 10 h, quand je me suis réveillé, je pense qu'il m'a accompagné à mon université. Et donc, voilà, ça répond également à la deuxième question. Dans le package de la bourse, tout était précisé, en fait, sur la lettre d'admission. Donc, il y a un perdième mensuel et le type de logement auquel vous avez droit. Donc, en tant qu'étudiant, pour un doctorat, c'est une chambre individuelle avec tout ce qu'il faut. Et pour un master, c'est une chambre double. Donc après, enfin, si vous voulez prendre une chambre en fonction de ce que vous avez, des moyens que vous avez, il y a des négociations qui sont entreprises avec l'université. Tout était clair, le logement m'avait déjà été attribué. Et donc voilà, quoi, en gros. Bon, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, impressionné à mon arrivée? Je pense qu'il y avait deux choses. Enfin, c'était la bibliothèque. En fait, c'était la première fois, enfin, dans mon université, là où j'étais, université privée, il y avait une bibliothèque. Donc, il y avait, enfin, qui était financée à hauteur de pratiquement 10, 15 millions par an. Mais, j'arrive en Chine, je vois un bâtiment de quoi? 11 étages. Et donc, qui faisait office de bibliothèque. Je lui dis, waouh. OK. Et donc, je visite la bibliothèque et tout. Franchement, bien organisé. La deuxième chose, je pense, c'était la manière de dispenser les cours. Parce que, de mémoire, mes profs me disaient à l'université que le système dans lequel on est, l'élève est censé faire beaucoup plus que le prof. Bon, on sortait d'un système où, visiblement, on nous donnait tout. Donc, j'arrive là, le prof dit, écoutez, moi, voici ma méthodologie. Et ça a été comme ça avec tous les profs. Donc, premier coup, le prof vient, il introduit les cours et tout. Il y avait généralement les cours qu'on a là en doctorat. Chaque prof a un livre. Donc, il dépose le livre sur la table et il appelle chacun son tour. Venez choisir vos chapitres. Bon, jusque-là, je sais pas, je précise, je venais d'Abidjan, donc je sais pas à quoi ça allait servir. Sauf que le prof introduit le cours. Il donne plus ou moins une idée générale, voici comment ça va se passer et tout. Et à la fin, il nous donne l'objectif des chapitres. Et donc, il fallait préparer chacun son tour, son chapitre, et venir le présenter. Et les sessions du prof étaient faites en sorte, étaient de sorte que la première séance de cours, il l'introduisait. Deuxième séance, bon, soit on faisait des cas pratiques, soit il l'introduisait également. Mais à partir de la troisième séance de coup, c'était les étudiants qui passaient, présentaient leur chapitre. Et crois-moi, on se faisait pas cadeau. On avait décidé de ne pas se faire cadeau. Ma grosse difficulté, c'est venu du fait que mon anglais n'était pas bien. N'était pas bien. En vrai, tu vois. Donc, quelqu'un qui parle pas bien l'anglais, venir faire des présentations en anglais, mes premiers mois n'étaient pas, non, non, je dormais un peu. Parce que je me disais que j'avais un retard justement sur les autres et qu'il fallait rattraper. Et c'est également de là d'où est venue l'admiration que mes profs avaient pour moi. Parce que bon, je sortais d'un pays francophone. Donc l'anglais, enfin, bon, c'est comme un anglophone qui doit apprendre le français. Donc, voilà. Donc voilà. Plus ou moins comment ça s'est passé, l'intégration. Les amitiés, j'ai eu de belles rencontres d'ailleurs, donc chinois comme étrangers, et qui perdurent encore, donc bon, vous dire à quel point j'ai pas de problème d'intégration, en vrai. Alors, différence entre la manière de sortie chinoise et la manière qu'on connaît tous là, donc ivoirienne. Déjà, j'ai envie de te dire que l'ivoirien, par définition, il est joyeux, hospitalier. Et les Chinois, pour moi, tu as deux types de Chinois. Hein. Le Chinois qui a été à l'étranger et le Chinois qui n'est jamais sorti du pays. Et je t'assure que la différence, elle se voit automatiquement. Et donc, en boîte ou au resto, ou peu importe où tu es, en fonction de ces deux types de Chinois-là, il y a une ouverture. Donc, le premier qui va regarder d'une manière, voulant ne pas s'asseoir à côté de toi, ainsi de suite, et le second qui, peut-être, s'il parle anglais, donc il va vouloir te saluer, montrer aux gens qui parlent l'anglais, tu vois, ou t'offrir même la boisson. Après, bon, ça c'est dans un cadre étudiant et tout. Après, dans un cadre dans un cadre pro, donc par exemple, il a marché, donc le gars, il va t'inviter, il va racler. Franchement, il s'en fout, en fait, tant qu'il sait que le deal est conclu et tout. Donc, il va payer resto, boisson, enfin, il paye tout, tu vois. Il n'y a pas ces contraintes-là. Après, avec les go, bon, avec les andés, c'est pareil, tu vois. C'est pareil. Pareil qu'à Abidjan, parce que bon, les belles dames aiment bien que souvent, tu vois, au premier date là, que quand même le garçon montre qu'il est homme, tu vois. Donc, il va quand même payer. Ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas de grosse différence à ce niveau-là. Les attentes, la perception de ma personne ou des Ivoiriens ou des Noirs. Et ça revient pour moi, en fait, à ce que je disais tantôt. Donc, tu as deux types de personnes, tu vois. Autant tu vois des personnes qui te verront dans la rue, ils vont. Tu sais, souvent, il y a un signe de nez où subitement, les gens ont des démangeaisons de narines, où ils se mettent le doigt devant le nez, tu vois. Ça, en fait, c'est des actions, c'est des choses qu'on voit régulièrement, tu vois. Et sans cacher, sans mentir, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Et ça revient encore une fois à la différence entre les deux types de Chinois pour moi. Le Chinois qui est toujours resté à l'étranger et qui a vécu à l'étranger, qui est sorti. Et le Chinois qui a toujours été, voilà. Donc, pour l'histoire, ça m'est arrivé une fois dans le métro, je pense que c'était un dimanche après l'église, je sais plus où je rentrais. En tout cas, j'étais dans le métro. Et dès que je suis rentré, j'ai vu que les gens écartaient, tu vois. Et il y a une dame qui me regardait un peu de haut, façon, genre, t'es qui toi, sale nègre? Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et j'ai demandé à la dame, j'ai dit, mais est-ce que toi, t'as un passeport? Elle m'a regardé, elle a tourné sa tête, j'ai dit, mais. En réalité, toi et moi, on ne peut pas discuter. Enfin, c'était la première fois où je réagissais ouvertement, parce que habituellement, tu te dis, bon, c'est l'ignorance et tout, bon, surtout quand c'est des personnes âgées. Bon, tu connais plus ou moins le rapport qu'on a avec les personnes âgées en Afrique. Donc, de temps en temps, même quand les personnes âgées te font quelque chose qui te dépasse, tu prends sur toi, tu te calmes, et tu te dis, bon, vas-y, c'est une personne âgée, tu ne vas pas manquer de respect. Mais franchement, ce jour-là, j'en avais assez dû. Et elle m'a tellement énervé que je me suis demandé, mais en fait, est-ce que toi, t'as un passeport? Elle a tourné, elle faisait genre, j'ai dit, mais en fait, toi, tu peux pas me dire ça parce que réellement, t'es une villageoise, tu vois. Moi, je suis sorti de mon pays, je suis à l'étranger. Toi, t'es jamais sorti et tu veux jouer les racistes. Tu vois? Bon, ça a été, bien sûr, un mélange d'anglais, de chinois, tu vois. Mais voilà, en gros, je suis sûr que mon message, je l'ai passé. Et par la suite, j'ai un jeune qui est venu qui m'a dit en anglais, m'a dit, ah oui, en fait, elle a essayé de te discriminer et tout. J'ai dit, oui, moi, j'ai vu ça. Tu vois, donc, tu m'apprends rien, tu vois. Il m'a dit, ah oui, donc, on a discuté et tout. C'est là qu'il me dit qu'il a été à l'étranger. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à faire cette observation, tu vois, entre les deux types de personnes. Et donc, avec ces personnes qui sont allées à l'étranger, là, justement, bah, c'est des gens qui n'hésitent pas à te parler, à discuter, à prendre ton contact, te dire, ah oui, mais on peut faire ci, on peut faire ça, tu vois. Vraiment, c'est des gens, il y a des gens qui sont ouverts, et malheureusement, t'as des gens qui sont quand même, et ça, je t'explique une histoire qui s'est passée avant Covid. Donc, j'imagine pas la période de Covid, et, bon, là, je suis revenu visiblement, ça continue un peu, tu vois, mais j'imagine pas comment est-ce que les gens ont souffert pendant Covid, tu vois. Au point où les gens se disaient, oui, c'est les Noirs qui ont ramené la maladie, c'est ci, c'est ça. D'accord. Et du coup, le Covid, je pense, il y a eu des bons et des pas bons. Parce que moi, j'ai été, déjà, pendant le Covid, j'étais pas en Chine, je suis rentré à Abidjan, à 2 jours d'intervalle. Donc, 2 jours, dès que je suis arrivé à Abidjan, un jour après, les frontières étaient fermées en Chine. Donc, je me suis senti un peu miraculé. Et voilà. Et du coup, j'ai plus ou moins suivi ce que les galères que les gens ont vécues. Donc, ça commence par les tests PCR journaliers. Donc, tu avais ça. Tu avais des interdictions de sortie. Tu avais également... Il y avait plein de choses, en tout cas, que les gens subissaient au quotidien, tu vois. Donc, j'imagine déjà avec ce racisme ignorant que les gens ont vécu ici, en période Covid. Et pendant Covid, ça allait vraiment... Déjà, au niveau de la Chine, les règles étaient très strictes. Pour se déplacer, il fallait des QR codes. Voilà. C'était très organisé, très strict à la fois. Donc, en termes d'administratif, je pense que ça a été l'une des plus belles périodes parce que tout était dématérialisé, il fallait plus se déplacer. Tu avais plein de gens qui ont d'ailleurs soutenu en ligne. Et d'ailleurs, moi, c'est... J'ai un pincement au cœur parce que c'est l'un de mes à la fois regrets et enfin, j'ai un sentiment mitigé vis-à-vis de ça parce que je me dis que si j'étais resté en Chine pendant Covid, j'aurais terminé mon doctorat. Alors, comment est-ce qu'on gardait le contact avec la famille et quel était le support moral? Ah, déjà, ma famille, on est très proches les uns des autres. Donc, très proches de mon frère et de mes 3 sœurs. Du coup, je parle également de mes neveux, tu vois. Et même, ça s'étend à leur mari. On se parlait quotidiennement et puis bon, elle m'appelait régulièrement histoire de savoir comment ça se passe, comment est-ce que je tiens. Après, je disais, moi, j'ai fait l'école militaire. Et à l'école militaire, à quoi? 12 ans, pour la première fois, tu quittes le cocon familial. Bon, c'est un système internat. Donc, pour la première fois, tu quittes le cocon familial à 12 ans, pour certaines 10 ou 11, et tu fais 3 mois sans voir tes parents. Du coup, garder le contact avec les parents, c'était une évidence. Après, qu'est-ce qu'il y avait à raconter? Je pense, vraiment, je disais ce qui les concernait. Donc, l'école, ma santé, et voilà. Genre, si j'ai rencontré des amis, je ne veux pas forcément lui le dire, ah oui, j'ai rencontré tel ami, non. Comment est-ce que les gens m'ont vu? Bon, pour certains, ils se disent, ah oui, mais comment est-ce que quelqu'un fait pour vivre en Chine, tu vois? Parce que, vu tout ce qu'on présente et tout sur la Chine, on mange des scorpions, on mange des vers de terre, on mange des scarabées. Après, t'as des gens qui viennent, qui te demandent, mais c'est comment ça se passe? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que si c'est vrai? Est-ce que telle chose est juste? Et si dessus, tu vois, et de par ton expérience, tu arrives à confirmer ou infirmer certaines choses, tu vois. Particulièrement, j'ai jamais mangé des scarabées. D'ailleurs, j'ai pas vu de restaurant où on en vend, tu vois. Donc, pour revenir à comment est-ce que les gens m'ont vu, j'ai envie de te dire, mes rapports avec les gens n'ont pas forcément changé, tu vois, parce que j'ai des amitiés de quoi, 10, 15, 20 ans, et d'autres qui sont un peu moins de 5 ans, tu vois. Donc, on se parlait, on gardait le contact, on essaie d'être présents les uns pour les autres. Quand je suis entré à Abidjan, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à mon avis en tout cas. Parce que, ou du moins, si quelque chose a changé, on ne me l'a pas fait sentir. Mais de mon point de vue, rien n'avait changé parce que bon, c'est pas parce que tu as été à l'étranger que tu deviens un super homme, tu vois. Alors oui, l'expérience m'a été bénéfique, tant professionnelle que personnelle, parce que je découvre en fait un nouveau système. Quand je dis nouveau, ce à quoi on était habitué, c'était... Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, tu vois. Mais on va directement à l'essentiel, tu vois. Donc, s'il faut parler de pognon, on parle de pognon. On cherche pas à embellir les choses. Dire, ah oui, mais comment ta journée s'est passée? Qu'est-ce qui... On perd pas le temps, tu vois. Donc, j'ai appris une nouvelle manière de fonctionner par les intérêts. Donc, on sait clairement que c'est une relation financière qui nous lie. Donc, chacun passe à autre chose, tu vois. Après, en termes d'opportunités, oui, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des opportunités business. Franchement, c'est une tête d'opportunité. Ah, si t'as refait, est-ce que je referais pareil? Je pense le seul pincement que j'ai eu, je pense que je l'ai énoncé plus tôt, ça a été d'être rentré pendant la Covid. Parce que j'avoue que au stade où je suis un peu fatigué d'étudier, tu vois. Donc au moins je me suis dit j'aurais terminé. Par contre, J'aurais pas forcément eu ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un sentiment mitigé, mais je pense que s'il y avait quelque chose à refaire, je serais juste pas rentré pendant le Covid. Après, je sais pas qu'il y a Covid, quoi, tu vois. Mais voilà, je serais resté éternuer mon programme tranquillement. Ensuite, quel conseil à donner à des gens qui veulent aller à l'étranger pour leurs études? Je pense que je dirais la même chose que j'ai dit à mes neveux quand ils allaient aux études à l'étranger. Et je leur disais comme ça que je m'attends pas à ce qu'ils soient premiers de classe, tu vois. Je m'attends pas à ce qu'ils ramènent, genre, qu'ils soient fiers de dire j'ai eu 20 en classe. Mais je m'attends à ce qu'ils développent leur relationnel et qu'ils développent leur intelligence. Bon, d'autres personnes te disent intelligence émotionnelle. Moi, j'ai envie de dire l'intelligence situationnelle, tu vois. Donc, faut plus être, en gros, faut plus être intelligent dans la vie qu'à l'école. Parce que, malheureusement, alors que bon, gérer les relations avec le travail, gérer les relations avec ses amis, malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Donc, avec plus d'aisance, tu arrives à gérer tes relations. J'ai envie de dire plus tu avances, tu vois. Donc, ça sera ça. Beaucoup garder les relations avec les parents, être intelligent dans la vie, parce que en fin de compte, c'est pas que l'école qui fait réussir. Bon, ce que je dis, c'est bizarre. Ils diront pour quelqu'un qui est en train de faire un doctorat qui dit que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Franchement, c'est bizarre. Mais de mon expérience, voici ce que je peux. Je dis pas d'abandonner l'école, jamais. Je dis pas de ne pas être bon à l'école. Moi, je le dis, mais je suis quand même bon, tu vois. J'ai eu la force de partir d'un système où, enfin, tout était encadré, tout était là, les parents étaient là. Mais il faut arriver à être bon dans les deux. Il faut arriver à être bon dans les deux. Et je dirais encore plus dans la vie qu'à l'école. Donc, à côté de ça, je dirais quand même d'avoir une certaine maturité parce que j'ai vu des gens, des plus jeunes que moi, qui sont arrivés en Chine. Et c'est des gens qui fumaient pas forcément quand ils étaient au pays, c'est des gens qui buvaient pas. Mais je sais pas pour X raisons, ils ont commencé à boire, à fumer, à faire des choses, tu vois. Bon, il faut également un rôle parental, de pouvoir discuter avec les enfants, mais il faut également que l'enfant soit assez mature pour savoir discerner ce qui est bien du mal. Donc, c'est vraiment les trois conseils que j'ai envie de donner aux gens qui veulent faire le pas pour l'étranger. Et il faut qu'ils soient des débrouillards, en vrai. Pas juste attendre que les parents racle chaque fin de mois et tout, mon cher. Faut qu'ils puissent se débrouiller. Faut qu'ils puissent se débrouiller. Et s'adapter au pays dans lequel ils sont parce que aussi tu retrouves des gens qui. Après, t'as des gens qui te diront, ah oui, la Chine, mauvaise expérience. Bon, je pense que ça dépend de ton niveau d'adaptation. Donc, si réellement t'as pas pu t'adapter, c'est que c'est un pays qui t'est pas fait. Si tu arrives à t'adapter, à te faire des amitiés, à faire ci ou ça, c'est un pays qui peut-être peut te réussir. Donc, pour résumer, l'adaptation, l'intelligence situationnelle, le contact familial et je pense le niveau de maturité pour l'individu lui-même.
Ça m'a inspiré une autre question. Est-ce que tu recommandes justement la Chine comme the place to be pour les études ou pas? Parce que donc on connaît les lieux historiques, la France, Canada qui est diverse, the next place to be. Il y a le Maroc aussi en termes d'historique. Mais est-ce que la Chine c'est the place to be pour les études ou pas selon toi?
Je dirais, pour moi, c'est un espace où, après, j'ai jamais fait la France pour les études, ni le Maroc, ni les autres pays habituels. Mais pour ce que j'ai vu et ce que ça m'a apporté, je dirais, c'est un endroit où tu peux développer ton intelligence situationnelle. Donc, je peux recommander. C'est un endroit où tu peux développer ton intelligence situationnelle parce que tu seras confronté à des choses régulièrement. Donc, il va falloir trouver des solutions, réagir. Tu seras confronté à un moment de ta vie entre aller à l'école ou faire du business. Donc, ça sera dans ta main, en fait, en réalité. Une fois de plus, ça sera à toi de choisir.
Bon, c'était nous. Espérons que vous avez apprécié ces témoignages de la série Partir mais à quel prix? N'hésitez pas à nous partager votre opinion, vos témoignages aussi et réagir sur cet épisode. Merci, à bientôt.